Formation biblique de disciples. Cours numéro 17, le retour de Jésus. Section 2, le retour de Jésus. Première partie, Apocalypse 12, le dragon et la femme. Avant d'être précipité sur la terre, le dragon tente de s'attaquer à la femme dans le ciel, c'est-à-dire au corps spirituel qu'est l'Église. Mais l'enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme représente à la fois l'Israël de Dieu, c'est-à-dire les Juifs qui auront cru, et l'Église des nations, et l'enfant est le fruit de l'épouse. Cette Église purifiée est remplie du Saint-Esprit, qui connaîtra la gloire de Dieu et l'enlèvement pour régner avec Christ. N'oublions pas que l'Apocalypse met en scène tout le processus de la fin du temps des nations. La femme dans le ciel annonce et préfigure la Jérusalem céleste, qu'Apocalypse 21 verset 9 appelle l'épouse, la femme de l'agneau. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept dernières plaies vint et me parla en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Elle représente l'héritage commun d'Israël et de l'Église appartenant à l'Olivier franc. Apocalypse 12 résume le temps précédant l'enlèvement et ce qui suit. C'est une vision qui nous transporte dans le monde spirituel. Cette période s'avère très difficile pour l'Église. La guerre céleste, dans sa transposition sur terre, aboutit à un affrontement de chrétiens contre d'autres chrétiens. L'Église dans la chair va se lever contre l'Église dans l'esprit. Cette situation a toujours existé depuis le premier siècle, mais à la fin des temps, cet antagonisme atteindra son paroxysme. Jésus nous en a avertis en Matthieu 24, verset 10. La trahison sévira, les chrétiens charnels ne supporteront pas les chrétiens spirituels et les livreront aux tribunaux et aux autorités. Il faudra que ces derniers gardent la parole et donc vainquent par leur détermination au prix éventuellement de leur vie. Cette confrontation, nous commençons à en voir les prémices aujourd'hui. Ce sera plutôt une persécution interne à chaque Église. Le fossé entre les charnels et les spirituels va continuer à se creuser. Les uns seront prêts à tuer pour défendre leurs convictions religieuses, alors que les autres seront prêts à donner leur vie au nom de la vérité et pour sauver les perdus. Cette relation intime et personnelle avec le Père, à travers la connaissance de son immense amour pour chacun d'entre nous et l'expérience puissante de sa gloire dans leur vie, se révélera dans la persécution face aux légalistes et aux religieux. Toute l'Église sera avertie de l'imminence du retour de Jésus, mais seuls ceux qui s'y seront préparés seront enlevés. En Luc 17, verset 33, le Seigneur a donné un autre critère. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Pour faire partie de l'enfant enlevé, il y a un prix à payer. C'est pourquoi sans tarder, apprenons à être disponibles pour Dieu et à devenir de véritables adorateurs. Alors il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24, verset 31. Le Seigneur manifestement rassemble tous ses élus sur les nuées pour préparer son retour. Si l'enlèvement est prophétisé pour le peuple spirituel qu'est l'Église, il nous faut aussi prendre en considération le rassemblement du peuple physique qu'est Israël sur la terre promise, rassemblement qui annonce aussi les événements de la fin. Ézéchiel 36, versets 24 à 26 nous dit « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Après l'enlèvement de l'enfant, la femme s'enfuira dans le désert où elle sera miraculeusement gardée. C'est un lieu préparé par Dieu afin qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours. Ceci nous renvoie au temps d'Élie, lorsqu'il fut contraint de s'enfuir sous la menace de Jézabel au torrent de Kérit, où les corbeaux le nourrirent. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. En 1 Rois 17, versets 2 à 4. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il n'y a pas non plus de hasard avec Dieu. En effet, dans le même chapitre, 1 Roi 17, versets 17 à 24, une femme a aussi perdu un fils, et celui-ci revient à la vie par le témoignage d'Élie. Dans Osée 2, verset 16, Osée prophétise que Dieu attirera Israël dans le désert et qu'il parlera à son cœur. C'est pourquoi, voici qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Comme avec le dragon qui poursuit la femme en lançant un fleuve derrière elle, mais avec la terre qui vient à son secours, Élie a dû subir une sorte d'ouragan, puis un tremblement de terre, et enfin le feu, avant d'entendre le doux murmure de Dieu. On peut se demander si ce désert sera le Sinaï ou le désert de la Araba, qui à la fin des temps appartiendra à Israël et sera un lieu de refuge pour de nombreux chrétiens du monde entier. Qui sont ceux qui forment le reste de la postérité de la femme? Ce reste englobe non seulement les chrétiens qui doivent se purifier dans le sang, mais aussi tous ceux qui arrivent trop tard et les rejoindront par la suite sous la pression des événements. Voir Luc 20, 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce reste ne pourra échapper aux exactions du dragon qui va lui faire la guerre et le vaincre pour un temps. Puis l'enfantement est proche. Plus l'enfantement est proche, plus la guerre deviendra violente, et cela se terminera par la précipitation des hordes sataniques sur la terre. Quel sera l'enjeu de cette guerre? La révélation de l'Antéchrist. Ce chapitre 12 de l'Apocalypse résume donc le destin des chrétiens selon leurs différentes catégories lors des événements des derniers temps, ainsi que celui d'Israël durant cette même période. Ces destins sont en quelque sorte emboîtés les uns dans les autres. Le chapitre 12 est à mettre en relation avec les trompettes qui avertissent que le diable est en train de descendre vers nous avec une grande colère. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Tous ces événements se passeront pendant les 7 années de l'Antéchrist. Deuxième partie, la bête qui sort de la mer, l'Antichrist. Le dragon est d'abord une terrible entité spirituelle qui est dans l'air. Puis en Apocalypse 13, il émerge de la mer, ce qui signifie qu'il va sortir de la masse des peuples pour tuer le tiers de l'humanité. Ésaïe 30, verset 6 déclare que le dragon volant vient d'une contrée de détresse et d'angoisse, menace sur les bêtes du Négueb, à travers une terre de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, le cobra et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leurs richesses et sur la bosse des chameaux leurs trésors, à un peuple qui ne leur sera d'aucune aide. Il est en osmose parfaite avec la femme de la grande Babylone, donc l'église prostituée. Le lien est très étroit entre cette femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème et qui avait 7 têtes et 10 cornes, dans Apocalypse 17, verset 3, et ce dragon qui porte 7 têtes et 10 cornes. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Apocalypse 12, verset 3. Regardons la prophétie de la statue de Daniel 2 et celle des animaux de Daniel 7, représentant des rois, des royaumes et des empires. Ils aboutissent à la bête d'Apocalypse 13 et 17. À partir d'Apocalypse 17, chapitre consacré à la grande Babylone, on constate que 3 rois sont déjà tombés. Ce sera un temps de fournaise décrit dans Daniel 7, verset 21. Car le dragon fera la guerre aux saints et l'emportera sur eux. Et en Apocalypse 13, verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. La parole dit que beaucoup, soit sous l'emprise de la séduction de l'Antéchrist, soit par crainte, choisiront de suivre la bête. Contrairement aux martyrs, en voulant sauver leur vie, ils la perdront à tout jamais, car dans l'éternité, leur salaire sera l'étang de feu et de soufre. Si nous lisons le descriptif du quatrième animal dans Daniel 7, versets 19 à 24, c'est-à-dire la quatrième bête qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'elle avait à la tête, il me parla ainsi. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Et nous y ajoutons juste après Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Nous avons l'interprétation d'Apocalypse 12, verset 3, le grand dragon rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Les 7 têtes, ce sont les 7 empires. Les montagnes, selon Apocalypse 17, verset 9, et 7 rois. Les 10 cornes, ce sont les 10 puissances politiques et 10 rois composant l'Empire romain. Le 11e est l'Antéchrist. Les 7 diadèmes, ce sont les 7 royautés, l'autorité. Si le dragon n'a plus que 7 diadèmes, lorsque l'enfant part vers le ciel, cela pourrait signifier que l'Église ne sera enlevée que lorsque les 3 mystérieux rois seront tombés. Cela signifie aussi que l'émergence publique de l'Antéchrist se situe au moment où Israël signera le pacte d'une fausse paix avec lui. Quoi qu'il en soit, le Seigneur Jésus nous a recommandé d'être prêts, de veiller et de prier. Comme il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais quand les vainqueurs de l'Église seront enlevés ou élevés, celui qui le retient, c'est-à-dire le Saint-Esprit, aura disparu. Alors l'impie pourra se révéler. Apocalypse 17, verset 8. Auparavant, un temps de purification aura lieu pour l'Église, suivi d'un réveil plutôt secouant. L'Antéchrist, qui est avant tout une émanation de la bête qui sort de la mer, aura un double visage. Il se présentera d'abord comme le prince de la paix et il sera acclamé partout comme tel pendant les 3 premières années et demie. Puis durant les 3 années et demie suivantes, il se présentera sous son véritable visage, un tyran monstrueux et plein d'orgueil. La grande tribulation commencera au milieu de ces 7 années, au moment où l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple de Jérusalem. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Matthieu 24, verset 15. Ce sera un signe pour ceux qui seront encore là et qui connaissent la parole. Ils réaliseront ce qui se prépare. Ils sauront que l'instant est venu de faire un choix crucial, accepter la marque de la bête ou la refuser et mourir. Apocalypse 17, verset 14 prouve que les vainqueurs des derniers temps verront la prise de pouvoir de l'Antéchrist à travers les 10 rois durant la première moitié de son règne. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. N'oublions pas que l'Apocalypse n'est pas écrite dans un ordre chronologique, mais de manière superposée avec les événements s'intercalant entre eux par des cycles. La bête politique, c'est la Grande Babylone plus la prostituée plus l'Antéchrist, c'est-à-dire c'est le 8e roi, ou la 11e corne issue des 10 rois, cumulant l'héritage spirituel des 7 empires précédents. Nous sommes ici au milieu des 7 ans où l'Antéchrist se révèle en s'asseyant dans le temple. Au stade de ce huitième roi se cumulent la grande Babylone, plus la deuxième bête, plus l'Antéchrist, prince de mort. L'Antéchrist va donc incarner tous les héritages. Il commencera son apparition politique en gouvernant territorialement sur le lion, l'ours et le léopard. L'Antéchrist n'est pas Satan, mais une image de Satan, comme Christ est une image de son père. La parole annonce que l'apparition de l'impie se fera par toutes sortes de signes et de prodiges, mais il doit tout d'abord accaparer 3 des 10 couronnes. Rappelons que l'Antéchrist ne sévira que parce que Dieu le lui aura permis, car son émergence n'est rien d'autre que le fruit d'une humanité orgueilleuse qui a cru pouvoir édifier un monde idolâtre par le pouvoir de son intelligence en se passant de Dieu. L'Antéchrist ne sera en fait que l'instrument du jugement de Dieu. Les chrétiens qui liront ces choses avant ou durant la grande tribulation n'ont pas à avoir peur, car c'est Jésus qui a reçu les nations en héritage. Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Et Apocalypse 7, verset 14. En Luc 21, verset 28, redressez-vous et levez la tête car votre délivrance approche. Satan ne peut que chercher à imiter Dieu, étant incapable de créer. Le summum de cette imitation est la fausse trinité infernale, le dragon, l'antéchrist et le faux prophète. Le faux prophète, c'est l'émanation de la deuxième bête religieuse. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon, selon Apocalypse 13, verset 11. Troisième partie, la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire le faux prophète. Le faux prophète sera-t-il de la tribu de Dan, raison pour laquelle on ne voit pas apparaître cette tribu dans les 144 000? Jacob avait prophétisé en Genèse 49, verset 17, Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Il est dit du faux prophète qu'il a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, selon Apocalypse 13, verset 11. Cet agneau est un sinistre plagiat. L'agneau glorifié a 7 cornes. En Apocalypse 5, verset 6, Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et ces 7 cornes rappellent les 7 royautés et les 7 diadèmes. Mais le faux prophète parlera comme un dragon, selon Apocalypse 13, verset 11. Il aura certainement des attaches tant avec Israël qu'avec le monde chrétien. Le faux prophète est apte à accomplir des signes et des prodiges, et son soutien accorde une formidable crédibilité à la première bête, qui est politique. Il est le porte-parole humain de Satan. Comme un faux Saint-Esprit, il se tient en présence de la première bête, obligeant la terre et ses habitants à adorer la première bête. Selon Apocalypse 13, verset 12, elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. C'est une autorité mondiale qui durera 1260 jours et que personne ne pourra contrecarrer. Le faux prophète parviendra à ce que les gens adorent aussi l'image de l'Antéchrist et que cette image parle. Apocalypse 13, verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Ce sera probablement une combinaison informatique d'un réseau mondial par satellite via Internet au moyen de visiophones fixes ou portables. La mise en place du contrôle de la planète est déjà bien en cours. Quel rapport entre l'Antéchrist et la femme de la grande Babylone, la prostituée? C'est en quelque sorte son épouse. Leur alliance ne peut durer. L'Antéchrist va détruire la prostituée après qu'elle lui aura servi de soutien, car toute alliance durable est contre sa nature. Il va la brûler par le feu. Apocalypse 17, verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Il ne supportera pas la moindre compétition dans le domaine des âmes. Quatrième partie, la Grande Babylone, la prostituée. La Grande Babylone s'est construite pendant des millénaires car elle est un système constitué par les acquis des 6 empires précédents sur le plan économique, social, culturel et religieux. Si ce système sert de tremplin à l'Antéchrist, ce dernier va mettre en place un système inconnu jusqu'alors de l'homme. C'est pourquoi la parole dit que la quatrième bête, le quatrième animal, était différent de tous les autres, extrêmement terrible, selon Daniel 7, verset 19. C'est la plus grande des illusions d'une humanité qui a cru avancer et sortir de la sauvagerie et de l'obscurantisme avec l'économie de marché, la social-démocratie, la tolérance religieuse, le progrès scientifique, l'humanisme, etc. Tout cela va s'écrouler en montrant ce que l'homme a vraiment créé, un vaste mensonge ne conduisant qu'à l'injustice, la violence et la dislocation des familles et des mœurs. Quand l'Antéchrist prend en main tous les pouvoirs, il peut mettre à bas cette comédie. Nul n'aura les moyens de s'opposer à ce qu'il instaure pour remplacer la Grande Babylone, un pouvoir absolu, centralisé, exerçant un contrôle total de chaque individu sur la planète par l'intermédiaire de l'informatique, visiophonique, connecté par la marque de la bête portée sur le front ou la paume de la main. Il contrôlera en parallèle tout le système monétaire de la planète. Le nombre 666 est le montant en talents or du tribut que toutes les nations payaient à Salomon. Selon 1 roi 10 verset 14, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Est-ce que la bête va plagier Salomon et se faire payer un tribut par toutes les nations? La Grande Babylone représente les trois grandes perversions qui sévissent dans ce monde qui refuse Dieu. La perversion des pouvoirs politiques, la perversion de l'économie, la perversion spirituelle. La Grande Babylone a amalgamé l'esprit à deux faces que sont l'Égypte, l'esclavage et l'occultisme, et Sodome, le culte de l'ego et l'idolâtrie du plaisir, et elle en amalgame deux autres que sont Tyr, état despote et concurrentiel, tyrannie par l'administration, et Jézabel, le nouvel âge et l'esprit de l'astrologie, fille spirituelle de Babylone, poussant à vénérer la créature au lieu du créateur, et qui produit très vite faux prophètes et fausses doctrines. L'Apocalypse nous contraint à prendre conscience à quel point les modes de pensée les plus universellement admis sont faux et à quel point les chrétiens eux-mêmes sont souvent piégés par eux sans même en avoir conscience. C'est pourquoi nous avons besoin de faire l'expérience de la nouvelle naissance et que par sa parole, Dieu inscrive ses lois dans notre cœur. Pourtant, notre époque demande une vigilance terriblement accrue. Jésus et les apôtres ont fait de nombreuses mises en garde sur les temps de la fin, pour avertir que la séduction spirituelle serait si perverse que même les chrétiens authentiques risqueraient la chute. Nous vivons une époque exceptionnelle dont l'enjeu est immense. Il n'est qu'un moyen de résister à cette séduction, s'imprégner de la parole de Dieu et rechercher la présence du Seigneur et vivre en étroite intimité avec la puissance du Saint-Esprit. La chute finale de la Grande Babylone est prophétisée en Apocalypse 18, verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta à la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. » Ceci est confirmé dans Jérémie 25, verset 12. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation, oracle de l'Éternel, à cause de leurs fautes, et contre le pays des Chaldéens, dont je ferai une désolation pour toujours. Ainsi que dans Ézéchiel 21, verset 32, une ruine, une ruine, une ruine, c'est ce que j'en ferai. Tout a déjà changé. en attendant la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Ce fut aussi prophétisé en Ésaïe 13, verset 5. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux. L'Éternel et les instruments de sa fureur vont causer des douleurs à tout le pays. Et Jérémie 50, versets 1 à 3. Et Jérémie 9, versets 46, 9 à 46. Parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Annoncez-le parmi les nations, faites-le entendre, élevez une bannière, faites-le entendre, ne le cachez pas. Dites Babylone est prise, belle et couverte de honte, Mérodac est terrorisée, ses statues sont couvertes de honte, ses idoles sont terrorisées. Car une nation monte contre elle du nord, elle réduira son pays en une désolation, il n'y aura plus d'habitants, hommes et bêtes s'en vont errants. Mais le cadre de ces prophéties prendra place seulement avec le royaume de l'Antéchrist à la fin des temps des nations. La prophétie précise encore que certains ennemis de Babylone viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux du septentrion. Au verset 41, voici un peuple qui vient du nord, une grande nation et des rois puissants qui s'éveillent des extrémités de la terre. La chute de Babylone sera la cause d'une grande réjouissance dans les cieux. La reconstruction de Babylone sur les bords de l'Euphrate et sa chute finale sont liées à la restauration de la nation tout entière d'Israël, selon Romains 11, versets 25 à 27. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Israël sera alors sauvé et la victoire sur tous ses ennemis sera un sujet d'allégresse en même temps que le prince de paix instaurera son règne. Voir Jérémie 50, versets 20 à 34. Il est utile de relever la déclaration prophétique du psaume 87, verset 4. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Cette prophétie remarquable rejoint celle de Jérémie 50, verset 28. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Le contexte démontre que ces prophéties concernent encore un temps à venir pour Israël, bien qu'il y ait déjà eu un accomplissement partiel dans le passé. Les bénédictions promises à Israël et aux nations seront une glorieuse réalité lorsque, dans un esprit de repentance, après de terribles souffrances, Israël tournera enfin les regards vers celui qui l'a percé. La paix sera désormais établie. Cinquième partie, le jour du Seigneur, le retour de Christ. Zacharie 14, versets 1 à 3. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Jérémie 46, verset 10. Ce jour-là est au Seigneur, à l'Éternel des armées, et c'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'abreuve de leur sang. Car c'est un sacrifice pour le Seigneur, l'Éternel des armées, au pays du nord, vers le fleuve Euphrate. Joël 4, verset 12 à 14. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Lancez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Voici des foules et des foules dans la vallée du verdict, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du verdict. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Sophonie 1, versets 14 à 16. Il est proche le grand jour de l'Éternel, il est proche, il arrive en toute hâte. Au bruit du jour de l'Éternel, le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de courroux, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ravage, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront le cor et la clameur contre les villes fortes et contre les tours élevées. 1 Corinthiens 15, versets 24 et 25. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. C'est parce que l'Église est déjà dans la gloire que Jésus-Christ peut juger les nations et nous associer ainsi à ses jugements, selon 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Alors que le monde connaîtra sa dernière bataille avec les armées de l'Antéchrist contre les armées du pays de Sin dans la plaine d'Armageddon pour posséder les dernières ressources énergétiques qui demeurent dans le plus beau des pays, la moitié de la population de Jérusalem sera déportée. Mais il y aura un tremblement de terre, comme ce fut prophétisé dans Zacharie, Jésus apparaîtra sur le mont des Oliviers avec ses saints et toute son armée. Il se révélera à Israël, leur montrera les mains qu'ils ont percées, et un puissant mouvement de repentance et d'émotion visitera le peuple qui aura survécu, amenant un grand mouvement de conversion. Selon Zacharie 12, verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Et Israël vivra désormais en paix avec ses voisins. Tous les peuples qui auront combattu contre Israël seront détruits, ainsi que la bête, les rois de la terre, l'Antéchrist et son faux prophète. Ces derniers seront jetés dans l'étang de feu. Et les autres seront tués par l'épée qui sort de celui qui monte le cheval blanc, Jésus, la parole incarnée de Dieu. Apocalypse 19, versets 19 à 21. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Zacharie 12, versets 2 à 9. Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, je frapperai d'affolement tous les chevaux et de délire ceux qui les montent. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur: Les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent au milieu du bois, comme une torche enflammée dans une gerbe. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples dans l'entour, et Jérusalem demeurera encore à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la splendeur de la maison de David, la splendeur de l'habitat de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. S'il y en a un qui trébuche parmi eux, il sera en ce jour-là comme David. Et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et dans Joël 3, versets 1 à 2, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. L'Éternel sera roi de toute la terre et son règne durera 1000 ans. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. À la fin des temps, en quoi l'enlèvement de l'Église concorde avec la chute de Satan? Expliquez cela avec Apocalypse 12. Deuxième question. Dans Daniel 2 et 7, il est question des royaumes de ce monde. Qui sont-ils? Que représentent les deux bêtes sortant de la mer puis de la terre d'Apocalypse 13? Quel rôle vont-elles jouer sur la terre avant le retour du Seigneur? Expliquez-moi l'imitation diabolique de la fausse Trinité, dragon, antichrist, faux prophète, par rapport à la véritable Trinité divine, Père, Fils, Esprit Saint. Troisième question. Une fausse église religieuse venant de l'Empire romain va apparaître. Qui est-elle? Qui lui donnera du pouvoir pour s'opposer à la vraie église? Expliquez-vous. Quatrième question. De quelle manière le retour de Jésus sur la terre se fera-t-il? Expliquez-vous avec des versets bibliques.